C'est un homme qui s'interroge, faut-il admirer la démocratie en Amérique ?
La démocratie qui pourtant en principe repose sur la liberté et l'égalité des individus est ambivalente. La démocratie n'est pas par essence porteuse de la liberté. De la liberté politique, de la liberté individuelle, de la liberté sociale.
Prénom ?
Alexis.
Nom ?
Tocqueville.
Date de naissance ?
1805, d'une famille légitimiste. Il dédaigna le légitimisme et il respectait les légitimistes.
Il est marié ?
À une Anglaise, roturière, protestante de surcroît, qu'il imposa à sa famille.
Profession ?
Magistrat dans sa jeunesse à la fin de la Restauration. Puis parti aux États-Unis, muni d'une mission d'études sur le système pénitentiaire d'outre-Atlantique.
Œuvre principale ?
De la démocratie en Amérique, qui découle de ce voyage et lui valut son élection à l'Académie française à 37 ans. Plus tard, 1856, l'Ancien Régime et la Révolution.
Entre les deux, une carrière politique ?
Oui, dans la Manche où était situé son château. Député de Valognes, élu d'abord au suffrage censitaire, puis en 1848 au suffrage universel. Après le 2 décembre 1851, il quitte la vie politique pour signifier son opposition au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte.
Et sa mort ?
À Cannes, où il s'était retiré, en 1859, la même année que sa femme.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Oui, le jeune Alexis de Tocqueville aurait pu passer confortablement sa vie protégé par le giron contre-révolutionnaire. Le soir, il arrivait à sa famille de se regrouper autour du foyer pour écouter, une fois les domestiques écartés, sa mère chanter un vieux refrain qui plaignait le sort de Louis XVI, dont l'arrière-grand-père, le courageux Malesherbes, avait été l'avocat avant d'être lui-même guillotiné. Il y avait donc ce nom. Il y avait aussi le château dans ce département de la Manche où on entendait encore l'écho de la chouannerie qui avait été abandonnée depuis la Révolution et qu'Alexis allait relever.
My name is Jean-Guillaume de Tocqueville. My wife Stephanie and I own the château de Tocqueville, which has been a family property since the 17th century.
The castle was built in three different parts, three different epochs. The first one was in the 16th century, the second one in the 18th century, and the tower wing, which is where you will be staying, finishes the property and was built in the 19th century. Most of a big family room on the ground floor with several sitting places, a dining room, a kitchen. And on the third floor, you have the Alexis de Tocqueville room. If you are very interested in Alexis de Tocqueville, you will be able to rest in Alexis' bed frame and read Democracy in America and just relax in this exceptional condition.
Au premier abord, si on voit son portrait sur les murs du château, c'est un homme au visage pâle, dont la physionomie triste et comme inanimée s'anime quand il cause. Il a besoin d'avoir autour de lui ses amis, sa femme, Marie Motley. Rémusat le peint ainsi, et il ajoute « Son grand mérite est d'avoir fait ses opinions par lui-même. Il avait su observer son temps, il avait constaté que le monde allait irrésistiblement vers la démocratie. En conséquence, il était devenu, plutôt il s'était résolu à devenir libéral et même démocrate. » Lucien Jaume a publié une biographie intellectuelle de Tocqueville.
Premier acte de rupture, il ne veut pas qu'on l'appelle le comte Alexis de Tocqueville. Il refuse le titre. Il se marie hors de l'aristocratie. Et il épouse une plébéienne anglaise. Il a résumé dans une lettre à sa femme, il a résumé au fond ce qu'il pense d'aristocratie, les temps féodaux, les temps de l'aristocratie, époque de grands crimes et de grandes vertus. Vertu avec un S. L'honneur, l'indépendance, la loyauté envers les supérieurs, voilà. Et il pense contre lui-même, parce que la révolution bourgeoise, encore une fois, bien que le peuple ouvrier et les étudiants fussent sur les barricades de 1830, donc révolution bourgeoise à base populaire, et il y voit un coup de tonnerre. C'est fini. Le règne de l'aristocratie est terminé.
Mais il ne va pas seulement penser contre lui-même, on a l'impression que c'est un homme qui cherche à abdiquer son orgueil.
Oui, c'est assez juste. Oui, il y a un chemin de correction de soi et de ses penchants. N'oublions pas que c'est un dépressif. Hein. N'oublions pas que Tocqueville vit dans une espèce de dépression permanente. Il écrit à son ami et cousin Kergorlé, « Ce que nous pouvons faire désormais, c'est servir loyalement la démocratie qu'il déteste. » À certains points de vue, pas à tous les points de vue.
Il a prêté serment, mais à contre-cœur à la monarchie de Juillet. Il répugne à continuer à exercer ses fonctions de magistrat à Versailles. Il va d'ailleurs souvent se retrouver dans cette situation d'isolement, voire de schizophrénie. Les Trois Glorieuses de 1830 l'ont déconcerté. En France, pour rejoindre la démocratie qui va venir, inévitable, les révolutions ne seraient donc pas évitables. Partir aux États-Unis lui permettrait-il de répondre à ces questions ? Il décroche une mission d'information sur le système pénitentiaire américain qui, par l'isolement des détenus qu'il met alors en place, séduit beaucoup les philanthropes de l'époque. Et il part, en 1831, avec son grand ami Gustave de Beaumont, qui le rassure et l'amuse à la fois. Leur voyage va les emmener non seulement dans les salons, les bibliothèques, les pénitenciers, mais jusque chez les Indiens et les trappeurs, et il durera 10 mois.
Au retour des États-Unis, Tocqueville mûrit longuement de la démocratie en Amérique, dont le premier tome paraît en 1835. C'est maintenant une des œuvres politiques les plus lues et les plus discutées dans le monde. Vous confirmez, monsieur Lebrun ?
Dans le monde entier, même là où règnent des régimes autoritaires. Il est lu par ce qu'on pourrait appeler l'humanité démocratique qui se reconnaît dans le miroir qu'il lui tend. Comment cette phrase, d'ailleurs, ne recueillerait-elle pas partout un écho ? Une nation qui ne demande à son gouvernement que le maintien de l'ordre est déjà esclave en son cœur. Cette notoriété internationale qui ne cesse de croître n'entraîne pas une baisse de l'intérêt que les Américains portent à Tocqueville, une thèse dans les universités américaines tous les ans. Et la France elle-même, son pays, qu'il avait négligé au temps du marxisme obligatoire, le redécouvre. Ainsi, Michel Houellebecq, dont il faut reconnaître que le regard dans ce domaine comme dans les autres est celui d'un laser.
Ah, Tocqueville. Tocqueville, c'est... J'avais trouvé ça quand même un peu ennuyeux. Et j'ai réessayé il y a 2 ans, j'ai été foudroyé. Réellement. On peut lire des passages, il faudrait que je me rassoie.
Ouais.
C'est un des passages les plus connus. Hein. Je sais pas où je l'ai mis. Alors. Bon, je sais pas si je vais le lire. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux est comme étranger à destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux.
Oui, c'est ça la démocratie en Amérique. Faut-il l'admirer ou la redouter, un changement de point de vue incessant ? Donc, les Américains sont égaux et semblables quand il s'agit de rechercher les plaisirs que donne l'enrichissement qui, en même temps, distingue. Avant même leur indépendance, les colons austères ont été attirés par les produits de luxe qui leur provenaient d'Angleterre. Et depuis, il n'y a pas d'Américain, dit Tocqueville, si pauvre soit-il, qui n'attendent avec envie, mais aussi espérance, d'accéder, lui, avec les autres, à la fortune. Lucien Jaume.
Être multimillionnaire et président... J'ai encore entendu hier à la télévision des Américains dire « C'est vraiment un exemple pour nous. la réussite dans la vie. Mais d'un autre côté, à un niveau plus horizontal alors, c'est-à-dire entre individus et non pas entre les individus et un millionnaire. À un niveau horizontal, la passion de l'égalité fait que vous avez toujours quelque chose que je n'ai pas. Et ça, j'y suis très sensible. Les petites différences entre nous, si ténues soient-elles, sont insupportables. Tocqueville, finalement, fait une analogie entre la passion d'être plus égal que les égaux et le divertissement pascalien. Ce n'est pas, Pascal disait, ce n'est pas le lièvre qui intéresse le chasseur, c'est la chasse. Et Tocqueville dit, s'il savait vraiment ce qu'il recherche dans cette égalité jamais atteinte, eh bien, il verrait que c'est la fuite de leurs conditions.
De la démocratie en Amérique, chapitre 13. Pourquoi les Américains se montrent si inquiets au milieu de leur bien-être ? C'est une chose étrange de voir avec quelle sorte d'ardeur fébrile les Américains poursuivent le bien-être. Le goût des jouissances matérielles doit être considéré comme la source première de cette inquiétude secrète qui se révèle dans les actions des Américains et de cette inconstance dont ils donnent journellement l'exemple. Celui qui a renfermé son cœur dans la seule recherche des biens de ce monde est toujours pressé, car il n'a qu'un temps limité pour les trouver, s'en emparer et en jouir. Le souvenir de la brièveté de la vie l'aiguillonne sans cesse. Indépendamment des biens qu'il possède, il en imagine à chaque instant mille autres que la mort l'empêchera de goûter s'il ne se hâte. Cette pensée le remplit de troubles, de craintes et de regrets et maintient son âme dans une sorte de trépidation incessante qui le porte à changer à tout moment de dessein et de lieu.
Quête de quoi ? Course vers quoi ? Cette inquiétude des Américains les mène vers une église ou une autre. Ils considèrent chacune comme un port d'attache dont ils peuvent aussi changer la religion, si importante en Amérique. Biden y a fait référence presque autant que Trump pendant la dernière campagne, se vit dans la fluidité des fidèles, dans l'émulation des églises entre elles. Lucien Jaume.
La démocratie est une forme religieuse. Pourquoi ? Parce que la démocratie donne le moyen à une puissance nouvelle de faire autorité et donne par conséquent les moyens de à la fois développer l'individualisme et en même temps maintenir le sens du tout, le sens du collectif, le sens de la nation.
C'est une religion du conformisme alors ?
C'est une religion du conformisme, mais n'oublions pas que ça n'a rien à voir avec le conformisme catholique. Le conformisme catholique, c'est que le troupeau doit suivre l'autorité des pasteurs. Là-dessus, je cite Fénelon, je cite Bossuet, je cite, si vous voulez, les grands auteurs du XVIIe siècle. Il faut donc une église enseignante. Aux États-Unis, Tocqueville écrit « La société agit sur elle-même et par elle-même ». Ça veut dire que le conformisme est très différent. Ce n'est pas le conformisme par rapport à ce que le pape ou les conciles ou les prêtres ont dit. C'est le conformisme par rapport à ce que ma collectivité va dire dans mon quartier, dans mon département, dans mon district, dans la nation. Et c'est la société elle-même qui se conforme à elle-même. Ce n'est pas une institution religieuse qui impose et le dogme et l'obéissance.
Mais pouvez-vous nous parler du rapport qu'il y a entre le christianisme américain tel que le voit Tocqueville et la question de l'argent et de la réussite ?
Oui, bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, on parle aux États-Unis de la théologie de la prospérité. C'est quand même un signe que, un, de ne pas être jaloux de la fortune des autres et deux, de vouloir l'atteindre.
Oui,
c'est un signe de Dieu.
Oui. Alors, ce que Tocqueville dit, c'est que les pasteurs américains sont très habiles à créer de l'autorité sur leurs ouailles. par leur éloquence et surtout les mobilisant sur des questions très concrètes. L'alcoolisme, l'esclavage, l'économie éventuellement. Les pasteurs américains lancent leurs ouailles sur des sujets qui préoccupent la vie locale ou la vie nationale américaine. Et Tocqueville dit, dans le discours des pasteurs américains, ils font tellement l'éloge de la réussite, de la prospérité, de l'argent, qu'on se demande, je transforme un peu le texte, mais c'est bien ce que dit Tocqueville, on se demande s'ils font l'éloge du bonheur dans l'autre monde ou s'ils font l'éloge du bonheur matériel dans ce monde-ci. Il a vu venir les télé-évangélistes. C'est absolument évident.
C'est la première fois que je parle devant vous. Mais ce matin, je me sens tellement heureuse que je voudrais partager ma joie avec tout le monde dans tout l'univers. Et remercier notre divin Seigneur.
Je tiens à parler. J'ai eu 80 ans la semaine dernière. Et je souhaiterais me reporter au Proverbe. Premier chapitre, 33e verset. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.
Amen, Emma. Amen.
Dieu est amour!
Seigneur, aide tes enfants à partager ton amour avec l'amour de tous les hommes, à ne pas répondre au mal par le mal, ni à la violence par la violence. Que les épées soient changées en socs de charrue, et les fers de lance en émondoirs, et les enfants de la paix n'apprendront plus jamais la guerre. Plus jamais.
Amen. Amen.
Ainsi, dans beaucoup d'assemblées protestantes aux États-Unis, la parole semble se partager de cette façon. Chacun se croit indépendant, mais en réalité, c'est l'assemblée, le peuple, qui exerce sa pression morale et sociale. Nous sommes dans une religion du public. Et si, en matière politique, la majorité, Sa Majesté la majorité, pouvait, elle aussi, atteindre la toute-puissance? C'est un sérieux risque de tyrannie de la majorité. Le philosophe Philippe Reynaud, alors s'il est une revue tocquevillienne en France, c'est bien le trimestriel Commentaire dont il est co-directeur.
Le principe de souveraineté du peuple est finalement présent dans tous les mécanismes institutionnels. Et la société démocratique, pas simplement les institutions politiques, favorise indirectement la tyrannie ou le despotisme de la majorité. L'analyse de Tocqueville, qui est très subtile, c'est la suivante. C'est de dire que ce qui caractérise la société démocratique, c'est le déclin des autorités, c'est le déclin de tout ce qui fait qu'un individu a un poids particulier dans la formation de l'opinion, parce qu'il est considéré comme un notable, comme un dignité religieux, comme un savant, un gentleman, etc., etc. La propension à croire tel ou tel individu du fait de sa position diminue. Et elle diminue, ce qui en principe est fait pour faire en sorte que chacun pense par lui-même. C'est le principe de la démocratie. Mais les citoyens sont inégalement intéressés par les différentes questions qui se posent dans la sphère publique. Ils ont chacun des problèmes qui sont prioritaires, ils vivent dans un régime opentatif, on n'est pas citoyen du matin au soir. Et c'est ce qui fait que il ne suffit pas à une autorité particulière, bien entendu, parce que personne n'a plus d'autorité qu'un autre, mais il suffit spontanément à l'opinion de la majorité ou à l'opinion de la masse. Et c'est ce mélange qui explique la puissance tout à fait considérable et nouvelle qu'a l'opinion publique aux États-Unis. Je trouve que c'est une analyse très belle, très profonde et très vraie.
Le public est la nouvelle puissance plus forte que le souverain.
Lucien Jaume.
Aujourd'hui, ça s'appelle l'opinion publique. Aujourd'hui, ça s'appelle les réseaux sociaux. Tocqueville essaie de montrer que l'Amérique est vraiment la patrie de l'agent moderne d'autorité, c'est-à-dire l'opinion publique. Et malheur, écrit-il, à qui brave l'opinion publique. La contradiction de l'individu démocratique, c'est que d'une part, il est très fier d'avoir son jugement personnel, c'est mon opinion et je la partage, et d'autre part, il est très inquiet de savoir si la majorité ne pense pas comme lui. Et il est très inquiet d'exprimer un jugement qui serait condamné par la majorité. J'ajoute que Tocqueville estime, dans un passage tout à fait remarquable, qu'il n'y a pas de liberté d'opinion en Amérique. À savoir que, quand la majorité est formée, c'est-à-dire quand chacun croit savoir ce que la majorité pense, on n'a pas encore inventé l'IFOP, n'est-ce pas ? Mais on n'est pas très loin. Quand chacun croit savoir ce que la majorité pense, alors aux États-Unis, il est difficile, il est risqué de s'élever là contre. On s'intoxique soi-même à vouloir aller vers la majorité. Et on fait la majorité sans le vouloir.
À des risques de la démocratie américaine et donc de fournir aux individus des opinions toutes faites, on hésite, on ne sait pas si Tocqueville cherche à nous faire admirer cette démocratie américaine ou s'il nous prévient contre elle. En tout cas, à ce point de notre lecture, on sent chez lui comme une pointe de regret. L'aristocratie, elle, privilégiait l'originalité là où la démocratie tend à l'uniformité.
Mary had a little lamb, a little bitty lamb. Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Lorsque Tocqueville parcourt l'Amérique, on le suit. Les formes de la vie politique contemporaine commencent à s'ébaucher, le bipartisme, les conventions qui vont précéder les élections présidentielles. En 1831, le président, c'est Jackson. Il en est à la troisième année de son premier mandat. Il succède à des chefs d'État aux mœurs plus aristocratiques que les siennes, mais ses partisans lui prêtent la solidité d'un vieux meuble en noyer. C'est son surnom. Lucien Jaume.
La présidence de Jackson, c'est le signe avertisseur que les masses vont prendre le pouvoir. Et donc, qu'il va y avoir, comment dirons-nous, un certain esprit plébéien. Un certain esprit plébéien, grossier, finalement, qui va contaminer les gentlemen, hein, qui va embêter les gentlemen.
Parce que Jackson, c'est un homme un peu brut de décoffrage, quoi. C'est
oui, je le connais mal, mais
un homme ordinaire, viril.
Oui, c'est cela. Mmh. Oui. Et c'est parce que les premiers présidents étaient des gens raffinés. Hein. Les 3-4 premiers présidents étaient vraiment des gentlemen.
Parce qu'avec Jackson, c'est un peu le style Colt, quoi. Un bon Colt avec un barillet, c'est mieux qu'une loi trop complexe.
Oui, bien sûr. Ça nous rappelle des choses, évidemment.
Bon, les armes du président Jackson, dont Donald Trump a fait installer le portrait dans le bureau ovale, c'était encore des pistolets classiques, comme ceux qu'il a montrés à Lafayette lors du voyage de celui-ci aux États-Unis en 1825. Jackson, c'était d'abord un soldat, un général qui avait combattu à la frontière et qui n'hésita pas à déporter les Indiens à l'ouest du Mississippi. Ah, les Indiens, Tocqueville a rencontré plusieurs d'entre eux, il leur a témoigné de la sollicitude.
Que signifie cette danse ? Je suppose que c'est la danse qui précède la cérémonie de l'aube pour une jeune vierge.
Tu es au courant ?
Oui, un petit peu.
Oui, tu es tout à fait différent des autres blancs, homme grand.
Il est toujours bon de comprendre les coutumes des autres. Je respecte ton peuple. C'est aussi ce que je pense.
Oui, mais les chefs qui croient trop les blancs ne se trompent-ils pas ?
Il est prêt à capituler. Il perd le fruit de nos victoires. Ce n'est pas cette fausse paix qu'il nous faut, mais un nouveau chef.
Vous tous, écoutez-moi. Les Blancs élèvent du bétail, mais ils ne sont ni faibles ni veulent. Pourquoi donc les Apaches n'apprendraient-ils pas à faire comme eux? Il n'est pas facile de changer, mais parfois on y est obligé. Les Américains deviennent chaque jour plus forts, alors que nous devenons plus faibles. Quand souffle un vent puissant, l'arbre doit plier, ou bien se laisser déraciner.
Ils ont cru à l'honneur, ils ont été déportés.
Le spectacle tragique d'un convoi d'Indiens Choctaws déportés sur la rive ouest du Mississippi le bouleverse profondément. L'indignation que ressent Tocqueville en ce 24 décembre 1831 prend des accents passionnés et véhéments qu'on ne trouve pas si souvent sous sa plume. La misérable troupe, vieillards, femmes et enfants à la traîne, abandonne pour toujours le sol sur lequel, depuis 1000 ans peut-être, ont vécu ses pères. Le lugubre spectacle est une conséquence directe de la politique officielle menée envers les Indiens. Sous la présidence de Jackson, vainqueur des Indiens à Tallapoosa en 1814, les déplacements de tribus se sont accélérés. En 1830, le Congrès a adopté à l'initiative du président l'Indian Removal Act, acte de déplacement des Indiens, littéralement, qui préconise leur déportation à l'ouest du Mississippi. La méthode employée, souligne-t-il, est hypocrite. Il n'est pas question, en effet, que les Américains imitent les Espagnols qui brûlent et massacrent les Indiens dans leurs colonies. Aux États-Unis, les tribus reçoivent une lettre du président lui-même, qui les invite à rejoindre de magnifiques terres situées plus à l'ouest, bien entendu dans leur propre intérêt. Des cadeaux accompagnent la lettre, verroteries et barriques d'eau de vie. On suggère toutefois que, s'ils refusent de comprendre leur intérêt, on usera peut-être de la force. Le constat de Tocqueville est tragiquement prémonitoire. Les Américains des États-Unis, plus humains, plus modérés, plus respectueux du droit et de la légalité, jamais sanguinaires, sont plus profondément destructeurs de leur race.
Les Indiens qu'il voit, lui, c'est des Indiens dégénérés, c'est-à-dire des gens qui ont été ravagés par l'alcool, et que les Blancs repoussent déjà, n'est-ce pas, dans les années, donc nous sommes en 1830-1831, que les Blancs repoussent de leur territoire, ce sont presque des débris, et il est effrayé de cela. Ils ne peuvent pas vraiment faire comme le reste de la nation américaine, c'est-à-dire cultiver la terre, ils font autre chose. Hein. Ils n'entrent pas dans ce que Tocqueville appelle la société moderne. Ils n'entrent pas dans la société moderne. Donc, de ce point de vue, ils n'ont pas de destin. No future.
Et donc, l'apitoiement de Tocqueville sur les Indiens, ça correspond un petit peu à la nostalgie ou à la mélancolie, en tout cas, qui vient de la fin de l'ancien régime qu'il a vécu.
Oui, vous avez raison. Ça peut surprendre le lecteur, mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il pense à la Germanie de Tacite, n'est-ce pas, à ce moment-là. Hein, il pense à la Germanie de Tacite à cause des tribus, à cause des mœurs guerrières, etc. Et en effet, Tocqueville, qui trimballe toujours son problème, comment je peux être aristocrate alors que je ne peux plus être aristocrate. Bon, voilà. En effet, voit dans les Indiens une forme de fierté du clan, une forme de fierté guerrière, une forme d'honneur qui lui rappelle sa classe.
Le gars, le gars.
Yes, ma'am.
Did you go downtown?
Yes, ma'am.
Did you see my brown?
Yes, ma'am.
Which way did he go?
Choo-choo, all night long. Choo-choo, all night long. Choo-choo, all night long. Choo-choo.
Sous Jackson, peu avant le voyage de Tocqueville, a lieu un recensement. Les Américains sont près de 13 millions, parmi lesquels 2 millions d'esclaves noirs. Monsieur Lebrun ?
Oui, la progression du nombre des esclaves est particulièrement forte au moment où Tocqueville visite les États-Unis. Le système des plantations du Sud est alors si rentable que beaucoup d'Américains envisagent de l'étendre vers l'Ouest. Cette année, 1831, l'année du voyage, une révolte éclate autour de Nat Turner, en Virginie, qui provoque la rédaction de textes encore plus répressifs dans cet État. Mais le mouvement abolitionniste prolonge et approfondit en même temps son action, éclairé par l'exemple anglais, oui, pour une fois, 1833, l'Angleterre abolit l'esclavage. Lucien Jaume.
L'esclave noir, même si il a une phrase terrible, au fur et à mesure que la liberté progresse dans la loi, c'est-à-dire qu'on peut faire des lois qui donnent l'égalité aux ex-esclaves, au fur et à mesure que l'égalité progresse dans la loi, l'inégalité progresse dans les mœurs. Pourquoi ? On a pris des gens, dit Tocqueville, qui avaient une couleur de peau différente et dont on a pensé dès le départ, c'est-à-dire dès le XVIIe siècle, ça commence en Virginie au XVIIe siècle, des gens dont on a pensé dès le départ qu'ils étaient inférieurs, à tout point de vue, qu'ils étaient inférieurs. Donc, même en rendant les Noirs égaux aux Blancs, écrit-il, le préjugé de race ne disparaît pas, et il ajoute, ne disparaîtra jamais. Il est très pessimiste, il estime que plus la masse des Noirs affranchis, devenus citoyens, pouvant en théorie voter, s'accroîtra, plus la guerre civile se développera. Il y aura une guerre, il y aura des luttes violentes entre les Blancs et les Noirs, et il estime que c'est le boulet des États-Unis.
Un discours que Tocqueville prononcera bien après son retour en France prouve cependant que son abolitionnisme est radical, philosophique.
Oh, in them long, hot summer days.
Je n'ai vu nulle part que le travail ait été mis en honneur par l'esclavage. Mais j'ai vu par mes propres yeux en Amérique comment la présence de l'esclavage déshonorait et empêchait le travail. Dans les pays à esclaves du Nouveau Monde, j'ai vu les citoyens les plus intelligents et les plus éclairés, c'est-à-dire le plus capable d'enrichir leur pays et eux-mêmes par l'industrie, imbus de ce préjugé ridicule et malfaisant qu'il y avait dans l'oisiveté quelque chose de glorieux, dans le travail quelque chose de bas. Pourquoi cela ? Parce qu'en voyant sous leurs yeux dans tous les travailleurs des esclaves, ils avaient confondu dans une même honte et la servitude et le travail. Dans ces pays, l'esclavage n'a pu servir l'industrie. Il l'a endormi, il l'a tué. Je ne crois donc pas qu'à aucune époque, l'esclavage ait été utile à la vie et au bien-être social. Je le croirais que je n'irai pas encore jusqu'à en conclure qu'à aucune époque, son institution a été bonne et légitime. Je n'admettrai point qu'un acte injuste, immoral, attentatoire aux droits les plus sacrés de l'humanité puisse jamais se justifier par une raison d'utilité. Ce serait admettre la maxime que « la fin justifie les moyens ». Et c'est une maxime que j'ai toujours détestée et que je détesterai toujours. L'esclavage eût-il en effet contribué à sauver la vie de quelques hommes et augmenter la richesse de quelques peuples, ce que je nie, n'en reste pas moins à mes yeux un horrible abus de la force. Un mépris de toutes les lois divines et humaines qui nous défendent de priver de la liberté notre semblable et de le faire servir malgré lui à notre bien-être. Ces faits sont odieux de nos jours. Ils ne l'étaient pas moins il y a 3000 ans.
On sait que la vie politique américaine va de plus en plus se polariser autour de cette question de l'esclavage qui va semer la zizanie dans les églises comme dans les partis et rejaillir sur une autre question, l'organisation des territoires. S'ils sont admis au rang d'État, comment les rapports de force autour de l'esclavage en seront-ils modifiés ? Lucien Jaume.
Malgré la grande diversité qu'il y avait entre les États, la grande diversité qu'il y avait entre les métiers, et entre les confessions aussi, le sentiment de l'union, comme il dit, l'union au sens de l'union américaine, le sentiment de l'union était assez fort. Cela dit, à la fin de son livre, il émet un certain nombre de doutes sur la solidité de l'union. Il dit, par exemple, tous les 20 ans, les États ont une natalité forte et doublent leur population. Supposons dans 100 ans, donc nous arrivons à 1930, je pense que dans 100 ans, nous aurons 40 États américains, on aura créé 40 États. Et alors la phrase est la suivante, je conçois mal comment une union de 40 peuples différents, il emploie ce mot, hein, je conçois mal comment une union de 40 peuples différents restera possible. Et donc j'ai des doutes sur l'unité future de la République américaine. Alors je cherchais un petit peu ces jours-ci si Tocqueville voyait venir quelque chose comme la guerre de sécession. Ma réponse est oui, hélas. Je pensais que non. Hein. Je pensais que unum est pluribus, un à partir de la pluralité. L'Amérique est un cas unique de son temps, qui n'est pas simplement une confédération, mais qui est un véritable fédéralisme, donc avec une monnaie unique notamment. Unum et pluribus, il émet des doutes. Il émet des doutes sur la durabilité à partir du moment où les différences vont se développer entre les États.
Service.
Monsieur Lebrun, les États-Unis ne sont plus un pays biracial. La progression des Blancs est faible, celle des Noirs modérée, celle d'autres minorités beaucoup plus rapide.
Bon, si la presse antique, la désunion pourrait devenir un fil caché de l'histoire américaine, c'est vrai, Tocqueville n'a pas prévu l'importance que prend aujourd'hui la question des minorités. Le risque, c'était, disait-il, la tyrannie de la majorité. Alors, d'aucuns disent qu'au XXIe siècle, le danger, c'est au contraire la tyrannie des minorités. Les choix électoraux, le vocabulaire, le lobbying de chaque minorité comptent en effet énormément. Exemple, Boston. Tocqueville avait connu la société élégante et homogène de cette ville. En 2020, son maire, démocrate, doit infatigablement délibérer avec les minorités qui forment son socle mouvant. Il s'appelle Marty Walsh.
We took on Boston's toughest long-standing challenges and we began changing our city.
Nous avons relevé notre plus ancien défi et commencé à changer notre ville. Nous ouvrons les portes de nouvelles écoles, de nouvelles bibliothèques, logements et emplois. Nous écoutons de nouvelles voix, et ce n'est pas toujours facile, mais un dialogue plus ouvert apporte de meilleures solutions pour notre ville. Le signe d'une démocratie vivante, la justice sociale, est au cœur de notre vision parce que plus d'égalité signifie plus de résilience. Nous continuerons à mener le combat pour défendre les immigrants. Nous continuerons notre travail pionnier pour l'égalité des sexes et nous ne cesserons jamais de protéger et de reconnaître les droits et les identités de la communauté LGBT.
Et oui, l'égalité des sexes, eh bien, ce n'est pas un impensé pour Tocqueville. Lui qui, contre vents et marées, va se marier avec une roturière pauvre, anglaise, qu'il entretient d'ailleurs de nombreuses lettres pendant son voyage, il admire la possibilité conquise par les Américaines de se marier à peu près comme bon leur semble, elles. C'est qu'elles entrent dans la vie avec une formation autrement épanouissante que celle des jeunes filles françaises, élevées dans des couvents et surveillées comme des fleurs de serre. Mais évidemment, elles restent destinées dans l'esprit de Tocqueville au foyer domestique. C'est un oracle au sens qu'on peut interpréter dans des sens divers ces propositions, il ne faut pas les prendre pour des prédictions. Il n'a certes pas prévu qu'un jour, la future juge de la Cour suprême, Ginsburg, récemment disparue, et alors avocate, plaiderait ainsi pour les droits des femmes.
Quand j'étudiais le droit, il n'y avait pas de toilettes pour les femmes. Encore étonnant qu'on ne s'en soit jamais plainte. Pas parce qu'on était timide, on était tout simplement stupéfaite d'être à la faculté de droit. Il y a près d'un siècle, Mira Bradwell voulait devenir avocate. Elle répondait aux exigences du barreau de l'État de l'Illinois, mais elle n'a pas eu le droit de pratiquer, parce qu'elle était une femme. Une injustice qu'elle a demandé à la Cour suprême de corriger. Nous ne vous demandons pas de changer le pays. C'est déjà arrivé sans qu'une cour nous en donne la permission. Nous vous demandons de protéger les droits d'un pays qui veut changer.
Et justement, puisqu'on parle de Cour suprême, Philippe Reynaud.
Il a compris ce qu'allait être le rôle de la Cour suprême dans la vie politique américaine à une époque où c'est à peine en formation, si vous voulez, et où l'essentiel de ce rôle jusque-là, d'ailleurs, a surtout consisté à renforcer l'union contre les États plutôt qu'autre chose, ce qui d'ailleurs correspond à l'orientation de Tocqueville lui-même, qui est proche de ce qu'on appelle les fédéralistes, c'est-à-dire les gens qui veulent augmenter les pouvoirs de l'union plutôt que les réduire. Donc c'est le premier point. La deuxième chose remarquable, me semble-t-il, et ce qu'il trouve important dans le rôle du juge, c'est que c'est un dispositif institutionnel qui limite de fait les pouvoirs de la démocratie, mais qui le fait à partir d'une acceptation fondamentale du principe démocratique, puisque, comme il le dit, je cite de mémoire, le juge ne peut pas empêcher le législateur de faire les lois qui lui conviennent, mais il peut l'obliger à obéir aux lois qu'il a faites. Et soumettre la démocratie à ses propres lois parce qu'elle a tendance à s'en émanciper, c'est une idée après tout très, très ancienne, puisque je rappelle qu'une des choses qu'on reprochait à Socrate, c'était d'avoir voulu obliger Athènes à obéir à ses lois.
La Cour suprême doit-elle protéger les droits d'un pays qui veut changer? C'était, on s'en souvient, la position de la juge Ginsburg, qui est morte il y a peu de semaines, ou bien rappeler au législateur d'où il vient, ainsi que le dit Philippe Reynaud. C'est la position dite originaliste de la juge Barrett, qui vient d'être nommée in extremis par Trump, et on sait combien cette nomination a eu d'importance.
La Cour suprême a acquis des pouvoirs considérables qu'elle n'avait pas du tout à l'époque de Tocqueville. Et elle a été conduite au XXe siècle à jouer un rôle actif dans la solution de problèmes politiques que les institutions démocratiques traditionnelles ou politiques n'étaient pas capables de résoudre. N'oublions pas que c'est dans les institutions fédérales, la Cour suprême a été au premier plan, par exemple, dans la fin de la ségrégation raciale, parce que le système américain était tellement bien fait, était tellement, je dis ça ironiquement, mais tellement bien fait dans la fabrication des checks and balances, qu'on ne pouvait pas avoir de majorité pour mettre fin à la ségrégation raciale. Il y avait toujours la défense des minorités, en l'occurrence de la minorité sudiste, était tellement bien organisée qu'on avait un système de blocage et qui a été cassé essentiellement par la Cour suprême. Donc la Cour suprême a fini par jouer un rôle très important, et, si bien que la composition de la Cour suprême est devenue un enjeu partisan très, très fort. Et on est aujourd'hui dans une situation où la dernière nomination couronne une évolution vers la droite de la Cour suprême des États-Unis et qui est clivée d'une manière si nette et si claire que il n'est pas certain que ça soit conforme à l'esprit des institutions.
Mais n'oublions pas, comme dirait Philippe Reynaud, que dans les conflits prévisibles qui sont à venir, la présidence, le Sénat et la Cour suprême procède du peuple, n'ont pas d'autres sources. Toutes trois relèvent du pouvoir souverain du peuple.
Madame Saint-Georges, quelles sont les grandes caractéristiques de la vie politique et administrative américaine ?
Eh bien, monsieur, il me semble que la grande caractéristique, c'est que nous sommes divisés en trois pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et puis le pouvoir juridique. Ça a été très bien décrit, d'ailleurs, par un Français qui a fait un livre excellent, le plus beau livre que nous avons sur le gouvernement américain. Ça, c'est de Tocqueville, qu'il a écrit il y a plus de 100 ans.
Tocqueville est toujours beaucoup lu aux États-Unis. On entendait une représentante de la Chambre dans les années 1950. On n'a pas entendu cette citation. « L'Amérique est grande parce qu'elle est bonne. Si elle cesse d'être bonne, elle ne sera plus grande. » Le président Reagan aimait à la répéter, et il disait « c'est du Tocqueville pur jus ». Eh bien, jamais on n'a retrouvé cette phrase dans les œuvres complètes du français. Remerciements à Lucien Jaume, auteur d'une biographie intellectuelle de Tocqueville chez Fayard, à Philippe Reynaud, prix Tocqueville 2014, les lectures Grégoire Roqueplot, la prise de son, Yann Fressy, Johan Vincent. En studio, Sébastien Huel, Olivier Leroux. Des emprunts au film La Flèche brisée, La loi du Seigneur, City Hall, le documentaire de Frédéric Wiseman, Une femme d'exception sur la juge Ginsburg. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin, Franck Olivard et Adèle Caïto. La réalisation, Audrey Ripouille.